bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie d'Ondes Noires. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons la chance d'accueillir Nadine Monfils. Nadine Monfils, bonsoir.
Bonsoir.
Et tout d'abord, je vais essayer de situer un petit peu votre parcours très rapidement. Donc, vous avez commencé par écrire des contes.
Oui.
Le premier livre, c'est Contes
pour petits pervers.
Voilà, donc ça, une vingtaine d'années, on va dire.
Oui.
Voilà, une petite vingtaine d'années. Puis des romans, Noir ou pas, vous avez fait du théâtre. Vous êtes aussi journaliste.
J'en ai fait, j'ai écrit des pièces, oui.
Journaliste aussi.
Oui.
Vous avez réalisé
d'ailleurs.
Deux films.
Un court-métrage et un film. Oui, un court-métrage avec c'était Annie Cordy, Jean-Claude Dreyfus et François Morel. Et un long-métrage s'appelle Madame Édouard avec Michel Blanc, Balasco, Bourdon, Lavanant, Rufus, Andrea Ferriol, Wouly Lanner, c'est une musique de Benabar.
Voilà, et je crois qu'il y a d'autres projets de films dans l'air, me semble-t-il.
Oui, j'essaye de monter Nickel Blues, le deuxième roman publié chez Bellefond. Et j'en ai écrit une quarantaine de romans, mais bon, je viens d'en sortir trois chez Bellefond. Et Nickel Blue, c'est une sorte de road movie qui se passe au stand avec deux espèces de tanguis complètement barrés qui se cassent avec la tête de leur mémé dans le bocal à poisson rouge, en fait.
Pour poisson rouge.
Ouais. Non, mais lui arrive rien, poisson, ça.
Voilà, alors je précise, on vient de parler de Madame Édouard, votre premier long métrage. C'est le premier aussi de la série de romans noirs que vous avez écrit autour d'un flic qui met en scène donc le commissaire Léon.
Ouais.
Un flic très atypique qui adore tricoter.
Voilà, il tricote depuis qu'il a arrêté de fumer, il tricote des paletots ringards pour son chien. Et cette série n'existe plus, mais elle va peut-être repartir parce que je publie un inédit qui s'appelle Les fantômes de Mont-Tremblant aux éditions Québec-Amérique.
Tiens donc, et donc où on retrouve le commissaire Léon.
Voilà.
Alors... Ouais. Au niveau de la littérature, vous avez écrit dans tous les genres. Et donc, apparemment, quand même, toujours dans la littérature de genre, je précise, en fait, pour mieux tordre les codes de chaque fois, c'est ce type de littérature, non? Vous amusez à tordre les codes.
Ah ouais, j'aime bien. Je déteste la routine ou les chemins bien balisés. Donc, j'ai un univers vraiment atypique, quoi. Par exemple, dans le dernier, dans Tequila Frappé, qui vient de sortir chez Bellefond, c'est un thriller qui se passe à Pandore, là, en hommage à Magritte, hein, puisque je suis belge.
Et, ça, je voulais pas le dire, mais on y est arrivé quand même.
Hein. Que je suis belge?
Voilà, oui, je me disais qu'à chaque fois, on doit vous poser la question, donc je voulais l'éviter, mais c'est pas grave du tout. Oui, justement, alors Pandore, ça m'a vraiment interpellée, parce que ça n'existe pas, j'ai cherché, ça n'existe pas, cette ville.
Non, c'est une ville imaginaire, et parce qu'en fait, il y a une peinture de Magritte qui s'appelle La Boîte à Pandore, qui est une peinture très mystérieuse, et pour moi, c'est une ville dans laquelle tout peut se passer. Il y a des marchands de raies, des marchands de poisse aussi, il y a des... D'ailleurs, le début commence, ce sont des pétales de roses qui pleuvent. Il pleut des pétales de roses, et puis il se passe une explosion.
Ça va très vite exploser, si on peut le dire.
Et voilà, et là, ça devient des pétales de chair humaine.
Alors, dans cette ville Pandore, qui se situerait quand même un petit peu vers la Wallonie, où je trouve...
Enfin, oui, c'est quand même très belge, cet univers.
Puisque c'est sous le couvert de Magritte. Justement, vous dites, on va rencontrer des choses bizarres. Et ce livre s'appelle « Tequila frappé » parce qu'il y a un chien qui s'appelle Tequila. Alors, pourquoi ce chien s'appelle Tequila?
Parce que c'est un clébard que Lynch, l'inspecteur, je l'appelais comme ça en hommage à David Lynch, que j'adore, a trouvé chez une vieille dame qui est morte. Et donc ça, c'était dans le précédent roman, dans Babylon Dream. Et donc, il recueille ce chien et dont personne ne veut parce qu'il n'y a plus de la gueule. Et il le garde bon gré mal gré jusqu'au jour où il s'aperçoit que le chien, il lampe la tequila quand il s'en sert une. Et il sourit. Et donc, il s'attache à ce chien qui est tout à fait bizarre.
Puis ce qui est pratique, c'est qu'en buvant de la tequila, il doit moins puer de la gueule, quoi.
Ah, c'est pas sûr, ça.
C'est pas sûr, ouais, non, c'est vrai. Bon, il faut absolument que dans le prochain, il ait appris en plus à croquer un peu de citron. Je suis sûre que ça va améliorer son haleine.
Bon, je suivrai le conseil.
Ouais, on sait pas. Ouais, alors, vous avez parlé donc de l'inspecteur Lynch. Qui, au début du livre, est appelé sur les lieux d'une explosion. Il y a bilan, un mort. et plus une main qui est trouvée par un personnage très particulier dont j'aimerais que vous nous parliez un petit peu. C'est Nikki. Alors, elle a un métier qui est à la mode un petit peu, mais encore une fois, vous la faites bien frapper. C'est une profileuse. Vous pourriez un peu me parler de Nikki ?
Mais en fait, c'est une. Je me suis inspirée d'une profileuse qui s'appelle Mickey Pistorius, dans un livre écrit par Stéphane Bourgoin, qui est spécialiste en la matière. Et il a recueilli son témoignage. Et cette femme racontait en fait que quand elle va sur les lieux d'un crime avec un ours en peluche. Elle a un panier avec des tas de nounours. Là, elle en prend chaque fois un parce que ça désamorce un peu l'horreur du crime. Et quand elle arrive, elle se laisse un peu aller et elle attend. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des images qui arrivent. Il y a un souffle de vent léger et puis elle voit des images. Et c'est en fait un métier entre le côté très rationnel et presque la voyance, quoi, avec des flashs qui arrivent.
Oui. Et donc, deuxième personnage principal, un personnage qu'on a déjà connu dans vos précédents romans, c'est l'inspecteur Lynch. Donc, vous nous avez dit que c'était en hommage à David Lynch. Ces deux personnages, ils sont d'un côté très proches parce que, pour moi, ce qui les définit le mieux, c'est le mot solitude. Je me trompe ?
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, par exemple, Mickey Pistorius s'est retrouvée seule parce qu'elle avait un mec et tout, et il a pas tenu le coup parce que c'est un métier où on est envahi mentalement jour et nuit.
J'imagine.
Et donc ma profileuse Nikki dans mon bouquin, c'est un peu le même cas. Et puis les flics aussi, c'est des gens assez solitaires parce que c'est difficile, même s'ils vivent avec quelqu'un, c'est difficile de partager toutes les horreurs qu'ils...
Et en plus, vous chargez ce personnage d'un lourd passé, y compris dans sa famille, il y a de lourds secrets qui traînent.
Ouais, ouais.
Que vous dévoilez un petit peu dans celui-ci, un peu plus.
Ouais.
Voilà, donc dans le livre, T'es qui l'a frappé, va suivre une série de meurtres. Et alors là, c'est là qu'on retrouve votre patte et les personnages et les situations complètement barrées, on peut dire. Vous prenez un plaisir très pervers à décrire la découverte des corps. Et à chaque fois, on a à la fois un frisson d'horreur et un bel éclat de rire, finalement.
Ben, c'est sans doute, justement, parce que, vu mes origines, on a un côté quand même très dérision, humour noir, donc je pense que c'est ça qui transparaît. De toute façon, dans la réalité, l'horreur est toujours sans couder au-dessus de la fiction, donc autant y aller à fond.
Oui, autant... comme vous dites, y aller à fond. Alors, vous avez évoqué Magritte. Le livre commence par une citation que j'aime beaucoup, que je vais dire, qui dit « Rien n'est confus, sauf l'esprit ». Et malgré cette citation et malgré des personnages complètement jetés, vous arrivez à avoir une histoire qui se tient, mais du début jusqu'à la fin. On a absolument envie de tourner les pages pour savoir quel est le coupable, quel est le meurtrier, bien que vous nous perdiez dans je ne sais combien de fausses pistes. Comment construisez-vous vos histoires ? Il y a d'abord l'histoire ou c'est les personnages ?
Il y a d'abord un squelette. Et après, cette idée-là, je pars dessus, mais en fait, je me réveille toutes les nuits, et au milieu de la nuit, j'ai la suite de l'histoire qui arrive, puis je me rendors, je prends jamais de notes. Et puis le lendemain matin, j'écris la suite. Je ne sais pas si c'est moi, ou si c'est un rêve éveillé, ou ce que c'est, j'en sais rien. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est comme si j'étais un peu un canal avec des choses qui passent par ma propre alchimie, quoi.
Oui, on va pas aller trop profond parce que si on commence à aller dans le surmoi et le subconscient, ça va dépasser mes compétences là.
Les miennes aussi.
Et puis il y a autre chose que donc il y a les personnages, l'histoire, et puis il y a la façon dont vous traitez les mots. Je dirais même que par rapport à l'horreur que vous décrivez souvent, vous semblez triturer la chair, chair, des mots. Vous semblez les attraper à pleine main ces mots. Vous aimez vous amuser avec ?
J'aime bien l'écriture. Je pense qu'on a souvent pensé à tort qu'un polar, c'était de la sous-littérature. Je pense qu'on peut avoir une bonne... je suis tout à fait contre cette idée-là, mais ça a été longtemps comme ça. Et je pense qu'au contraire, c'est un vivier, le polar. Et c'est une source, justement, d'imagination, d'écriture. Et Et en fait, c'est quand même une littérature où il y a un don de soi, où il y a un bonheur de raconter des histoires. Donc autant le faire avec les mots les plus choisis, les plus adéquats.
Alors, vous avez dans l'ensemble de vos livres, ça, j'ai pas suivi les 40, je dois dire, j'avoue, mais dans l'ensemble de vos livres, il y a quand même toujours un univers qui est vraiment qui vous appartient, qui est d'un côté, je dirais, glauque et sanguinolent, et puis tordant de rire de l'autre. C'est un petit peu comme ça que vous imaginez le monde qui nous entoure.
J'ai un côté un peu, c'est arrivé près de chez vous. Je crois, ouais, je vois. Enfin, je pense que il y a des choses tellement horribles que si on n'en rit pas, on en meurt.
Oui, d'ailleurs, on meurt beaucoup dans vos livres, hein. Faut pas.
Oui.
C'est assez facile
oui,
de
vrai.
Se retrouver dans des situations où on va trépasser assez vite. Tout à l'heure, j'ai oublié.
Dans la vie aussi, on meurt beaucoup.
Je voulais vous poser une question, puisque vous avez fait court-métrage, film, et que vous écrivez beaucoup. Finalement, qu'est-ce que vous préférez triturer, les mots ou les mots ou les images?
Ah, j'aime vraiment les deux. J'ai
C'est
besoin
complémentaire?
Des deux. Ah oui, complètement. De toute façon, quand j'écris, je suis comme au cinéma. Moi, je vois le film qui se déroule. Mais c'est vrai que quand j'ai réalisé mon film, j'étais dans un bonheur absolu, quoi. Comme au paradis. Enfin, si, je me suis dit que s'il n'existait pas là-haut, et je l'aurais au moins connu un petit bout sur Terre... Mais écrire, pour moi, c'est aussi un bonheur absolu. C'est une jouissance.
D'ailleurs, on sent dans vos livres que vous avez envie de décrire des situations et que vous avez envie de nous donner des images, finalement.
Oui, j'ai vraiment envie de partager. Enfin, il y a un moment, je me disais quand même, écrire des thrillers, c'est des choses très noires. Est-ce que c'est bien de faire ça? Et puis, quand un jour, j'ai rencontré une vieille dame dans la rue qui m'a dit, mais vous savez... pendant 2 heures, j'ai complètement oublié mes soucis avec votre thriller. Et moi-même, quand je vais pas bien, c'est vrai qu'un thriller, ça me sort complètement de
C'est
de
une
mon
bonne
quotidien,
motivation pour lire et écrire,
ça.
Effectivement.
Ouais.
Alors,
c'est du bien.
On est très content de vous recevoir parce que donc ce livre vient de sortir il y a très peu de temps aux éditions Bellefond, mais il y a un autre livre que j'ai lu en un week-end et qui m'a complètement régalé. Alors je vais annoncer le titre. Ça s'appelle Le bar crade de Casse-couille et je précise Casse-couille écrit en un seul mot et avec 2 K. Est-ce vous qui avez choisi le titre de ce livre qui paraît chez Suite Noire, ou est-ce le directeur de collection, notre cher copain Jean-Bernard Pouy?
Jean-Bernard Pouy. Bah, disons que ça s'est fait un peu nous deux, parce que on s'est, voilà, je crois qu'on, je sais plus qui a trouvé un bout et l'autre. Ça s'est vraiment fait en parfaite communion. Mais j'étais partie du titre La balade de Kouski de Thierry Criffaut, parce que c'est le principe de cette collection, c'est de prendre un titre de la série noire et de le tordre. Donc voilà, je pense que on était... voilà, là, moi j'avais... ouais.
C'est un titre qui augure bien d'ailleurs de l'histoire. Alors pour essayer de résumer, moi je dirais qu'on est dans l'ambiance un peu des chiens.
Hein,
je vois tout à fait quelques personnages sortis des chiens faire une adaptation de ce livre. Et on est dans un rad, un bistrot, qui est tenu par Lucien, avec comme pilier de bar un personnage magnifique, Rosalie.
Ouais.
C'est une poivrotte. Comme je crois qu'on n'en fait plus, mais bon, peut-être qu'il y en a encore. Hein.
Oh, à Bruxelles, dans les vieux caberdouches, comme on dit chez nous, il y en a encore quelques-unes, ouais. En voie de disparition, quand même.
C'est quand même en voie de disparition.
Ouais.
Et l'argument, l'élément déclencheur, tout bêtement, tout simplement, dans ce rad, un étranger entre. Et à partir de là, c'est le délire le plus complet. Je suppose que vous êtes vraiment bien amusé à écrire ce livre.
Mais oui, comme chaque fois que j'écris, je me marre bien.
Et nous, on s'amuse quand même beaucoup aussi à le lire. Et bon, il y a une subtile unité, en fait, de temps et de lieu. C'est une contrainte que vous êtes donnée pour ce livre-là? Le fait de
non.
d'un
Pas
temps ramassé venu, et d'un lieu unique
Non, c'est venu tout seul, parce que je sais pas, je voyais ça dans une sorte de huis clos, un peu comme une pièce de théâtre aussi.
Oui, c'est très théâtral, effectivement. Et il y a aussi dans ce livre, je dirais, une pointe de nostalgie, un peu revenir à donc justement ces bistrots. C'était une envie aussi de votre part de décrire un petit peu ce qui va disparaître, ce qui n'est plus.
Ouais. Ah ouais, moi je trouve qu'il faut vraiment faire tout pour sauvegarder les vieux troquets, les vieux bistrots, parce que c'est ce qui fait l'âme d'un lieu. C'est là que les vrais gens, ceux qui marchent pas dans les rangs, se retrouvent. C'est là que tout se passe. Je pense que si un patelin qui perd son vieux bistrot, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien. Donc les gens deviennent vite aseptisés, cloîtrés chez eux. Ou les bistrots bobos, c'est une horreur, quoi. Il y a pas d'âme là-dedans. Donc oui, je suis vraiment à fond la défense des vieux troquets.
Bon, on va peut-être créer une association, hein, effectivement. Troisième livre dont j'aimerais que vous nous parliez assez rapidement, parce que malheureusement le temps part, passe. C'est une réédition. Ça s'appelle Les Fleurs Brûlées et c'est un roman. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman historique?
C'est une sorte de suspense historique, qui se passe au XVIIe siècle autour de l'affaire des poisons avec la Brinvilliers.
Et vous mettez en scène la fille de la Brinvilliers.
Voilà, parce que je voulais traiter le point de vue des enfants d'assassins, parce que ça m'interpelle toujours très fort. J'ai mal au cœur pour eux, quoi.
J'imagine. Et c'est un roman qui s'adresse à un public plutôt adolescent, non? Il me semble que ça a été fortement recommandé par des profs, ce livre.
Oui, mais bizarrement, mes thrillers chez Belfond sont aussi étudiés dans les écoles. Donc je crois qu'ils plaisent beaucoup aux ados, mais je pense que j'ai une littérature entre adultes et ados, quoi.
Je crois qu'il y a une chose qui pourrait assez bien vous définir, c'est-à-dire que vous ne vous prenez pas au sérieux. Même si c'est des livres très bien écrits et très bien foutus, ça veut rester quand même pour tout âge. Et effectivement, les adolescents doivent se régaler à lire vos scènes complètement déjantées.
Ils doivent je crois qu'il faut, de toute façon, il ne faut jamais se prendre au sérieux. Et puis quand on est artiste, je pense qu'on reste toujours des grands enfants. Qu'on ait une âme ou qu'on crée, on reste des grands gosses, non?
J'espère bien. J'espère beaucoup, en tout cas. En tout cas, vos livres nous aident beaucoup à le rester. Et comme je l'ai dit au tout début de l'interview, vous avez commencé par écrire des contes. Mais finalement, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais arrêté d'écrire des contes.
Non, j'en ai écrit d'autres. J'ai écrit des contes cruels qui sont sortis aux éditions Blanche. Et puis, de toute façon, j'en ai plein mes tiroirs parce que j'ai toujours besoin d'écrire ça.
Et même ces romans noirs... Les romans policiers, les polars, ça tire vers quand même des contes, parce qu'il y a toujours un petit côté, comme par exemple vous avez évoqué la pluie de pétales de rose qui tombe. Il y a toujours un univers, on verrait bien sortir une fée ou un gnome de vos polars finalement.
Il y a pas mal de monstres, entre guillemets, parce que pour moi les monstres c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et
c'est les gens les plus intéressants.
C'est vraiment...
Nadine, mon fils, il va être 19h, notre émission se termine. On vous remercie beaucoup et on mettra toutes les références de ces trois livres sur notre site. Merci beaucoup. Au revoir, Nadine.
Merci beaucoup, merci à vous.
Au revoir, à bientôt, j'espère.
Merci. Ouais, oui, merci.
Agora nous donne l'heure. 19h sur Agora FM. Bonne après-midi.